RCF. Vous écoutez la rediffusion du Temps de le dire, présentée par Stéphanie Gallet. Attention, notre standard est fermé.
Bonjour à tous, c'est le temps de le dire. Comment peut-on être surdoué ? C'est mal parti, hein ? Quand nous nous débattons dans nos soucis quotidiens, nous aimerions n'avoir qu'à froncer notre nez pour, telle Samantha dans Ma sorcière bien-aimée, résoudre facilement les différents problèmes qui se présentent à nous. Pourtant, depuis cette célèbre série, nous savons bien qu'un tel don a aussi un revers, qu'il ne rend pas forcément plus heureux, qu'il peut même passablement compliquer la vie, et que pour bien le vivre, il faut le nommer, le reconnaître et en prendre son parti. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Alors si les gentilles sorcières n'existent qu'à la télévision, les adultes surdoués sont eux une réalité, et la douance une forme de l'esprit qui complexifie la vie de ceux qui la possèdent. Si aujourd'hui on sait un peu mieux diagnostiquer et accompagner ces enfants à l'intelligence fulgurante, qu'en est-il des adultes surdoués ? C'est-à-dire de ces enfants précoces dont l'entourage n'a pas compris ce qui leur arrivait et qui ont grandi qu'un cas, jamais à l'aise avec les autres, jamais à l'aise avec un monde qui n'était pas la taille de leur esprit et de leurs aspirations, et jamais à l'aise avec eux-mêmes, cette tête trop rapide, trop sensible, qui saisit tout, mais qui, telle les ailes de l'albatros, l'empêche de marcher. Comment être un adulte surdoué et heureux ? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui, avec la conviction qu'il n'est jamais trop tard pour aller mieux, jamais trop tard pour apprendre à se connaître. C'est le temps de le dire, ce matin on parle de l'intelligence, on parle de la différence et on parle aussi un peu du bonheur. Alors comme tous les jours, vous avez la parole, vos questions, vos réactions, vos témoignages, c'est toujours au même numéro 04 72 38 20 23.
h 30, 11h, toute la vie en question sur RCF.
Allez, c'était pour donner un petit peu de légèreté dans cette émission. Monique de Kermadec, bonjour.
Bonjour.
Vous allez être notre sorcière bien-aimée ce matin ?
Très volontiers.
Bon, vous êtes psychologue, psychanalyste et puis vous accompagnez depuis des années des enfants dits précoces ou des adultes surdoués qui ont été des enfants précoces ou parfois n'ont pas été diagnostiqués ou l'ont été. Vous êtes déjà venue dans cette émission, c'était il y a quelques mois, pour parler justement du petit enfant précoce. Et pendant l'émission, eh bien, beaucoup de personnes avaient appelé pour dire « mais moi je crois que j'ai été un enfant précoce et je suis pas très bien dans mes baskets ». Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire une deuxième émission. Et puis en plus, l'adulte surdoué, c'est aussi le sujet de votre travail et de vos recherches. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « L'adulte surdoué » avec un sous-titre que je trouve très explicite. « Apprendre à faire simple quand on est compliqué ». C'est publié chez Albin Michel. C'est vraiment un livre pour parler au plus grand nombre, pour faire du bien et pour expliquer ce qui se passe dans sa tête quand on est un adulte surdoué. Donc Monique de Kermadec, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce qui vous passionne dans ces enfants et ces adultes surdoués ?
Ah, leur contact est particulièrement agréable et gratifiant, et il est vrai que les rencontrer ne laisse jamais indifférent. Ce sont des personnes qui ont un regard sur le monde, qui ont un rapport avec le monde qui est particulier mais qui est aussi très stimulant. Je me suis intéressée à la question très progressivement parce que, en écoutant des enfants et des adultes qui étaient en souffrance, je me suis rendu compte que certains, aux yeux des autres, avaient tout ce qu'il fallait en apparence pour que cela se passe bien. Et d'une façon surprenante, étaient restés en deçà de leur potentiel, étaient insatisfaits. D'ailleurs, le titre « Apprendre à faire simple quand on est compliqué » n'est pas un hasard, parce que généralement, on reproche à ces enfants ou à ces adultes de compliquer les choses et de ne pas prendre la vie à la légère, comme on aimerait les voir faire.
Monique de Kermadec, est-ce que c'est vraiment sérieux de travailler sur les adultes surdoués ? Est-ce qu'ils sont si nombreux que cela ?
Alors, Si on se réfère aux tests d'intelligence, les fameux tests de QI, on dit que ceci représente à peu près 2%, voire 5% d'une population.
Donc c'est à la fois pas beaucoup et à la fois énorme.
C'est énorme, mais que l'on soit surdoué ou pas, l'essentiel, je pense, pour mener une vie gratifiante, c'est de faire aboutir ses talents, c'est de mener une vie qui a un sens et qui est satisfaisante. Or, on voit de trop nombreuses personnes rester insatisfaites, accepter, se plier à une vie qui, dans les faits, ne correspond pas à leurs désirs profonds. Et en thérapie, on a toujours envie d'aider l'autre à mener une vie plus satisfaisante.
Monique Tagermadec, j'ai l'impression que ce livre et votre travail sur les adultes surdoués, ce livre peut aider des gens qui ne sont pas surdoués.
Oui, ça peut les aider déjà pour se connaître, parce que je donne des clés pour permettre à toute personne qui le lit par rapport à certains traits de caractère, certaines situations. J'essaye de donner des conseils qui peuvent servir à tous, mais qui peuvent servir aussi dans un contexte professionnel, parce qu'on peut être entouré de ces adultes, dans un contexte familial. On a dans les familles certaines personnes, c'est vrai, qui se démarquent par une différence que l'on ne sait pas toujours qualifier d'ailleurs, mais que l'on trouve étrange ou différent. Donc je donne des clés qui sont accessibles, me semble-t-il, à tous.
Alors on va beaucoup parler d'intelligence dans cette émission. On peut peut-être commencer par expliquer qu'est-ce que c'est que l'intelligence.
Ah, très souvent on pense que l'intelligence c'est celui qui sait tout, celui.
Et ça
qui
c'est l'érudition.
Voilà, exactement, c'est l'encyclopédie vivante. L'intelligence c'est la capacité à résoudre certains problèmes, à trouver une solution, à la trouver de manière efficace, à la trouver de façon rapide. Il y a plusieurs formes d'intelligence et il est important d'insister là-dessus parce que trop souvent, et il est vrai, ceci est dû au fait qu'on ait abordé en France la précocité sous l'angle de l'intelligence cognitive, celle qui permet de faire des études. Mais il y a d'autres intelligences. Il y a des intelligences émotionnelles, relationnelles, il y a des intelligences musicales, sportives. Si vous êtes danseur étoile à l'opéra, vous n'êtes pas obligé d'avoir 130 de QI pour vous démarquer de manière assez exceptionnelle des autres. Donc j'aimerais qu'on élargisse cette conception de l'adulte surdoué et qu'on ne la limite pas simplement à un chiffre de QI.
Alors justement, qu'est-ce que c'est pour vous un adulte surdoué ?
Ah, un adulte surdoué, c'est quelqu'un, je dirais, qui a une forme de pensée déjà particulière, quelqu'un qui pense vite, qui pense bien, quelqu'un qui a une intensité dans l'attente par rapport à l'autre, par rapport à la vie. C'est quelqu'un qui a une grande sensibilité. Je dirais que quand il était petit, c'était un enfant très curieux, mais on rencontre ça aussi à l'âge adulte. C'est quelqu'un de perfectionniste et quelqu'un qui a de fortes valeurs et qui est toujours à la quête de sens. Il ne peut pas se contenter de l'à peu près.
Est-ce qu'il y a des surdoués célèbres ?
Bien évidemment. Mais essayer de faire une liste serait probablement laisser de côté...
Un surdoué, c'est quelqu'un comme Mozart ?
Alors, ça, c'est un bien génie, évidemment. C'est mais là, chose. Je pense qu'on parle vraiment de génie. Quand on pense à Mozart, Einstein, Pic de la Mirandole et d'autres personnes qui font partie de notre histoire, il est vrai qu'on prend des personnes exceptionnelles. Or...
Mais je pense que c'est important de le dire pour ne pas faire peur. C'est pas... Quand on a un enfant surdoué ou un mari surdoué, on n'est pas
avec... Ça veut dire
qu'on
a un très fort potentiel et il nous appartient après, bien sûr, de mettre au travail ce potentiel et d'en tirer le meilleur parti.
Alors, si là on a dit que des génies, est-ce qu'il y a des surdoués célèbres ?
Il y a des surdoués célèbres. Nous en connaissons, on en voit dans les différents domaines, que ce soit dans des domaines scientifiques, que ce soit dans des domaines artistiques, littéraires.
Mais finalement, tous les gens qui ont réussi, que ce soit dans la science, dans la danse, puisque vous citiez la danse, dans la politique, ne sont pas forcément des surdoués.
Tout dépend de la définition que l'on entend par surdoué, bien évidemment. Réussir implique, c'est vrai, la plupart du temps, beaucoup de disciplines. Implique un talent, vraisemblablement, et je dirais même certainement, mais au-delà du talent, pour réussir, il faut aussi beaucoup de discipline, beaucoup d'investissement, il faut du temps. Les médias ont tendance à véhiculer aujourd'hui des images fulgurantes de réussite, comme ça, où les enfants et les adolescents pensent qu'on peut réussir du jour au lendemain. Or, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'à l'arrière, il y a eu tout un temps de préparation et de nombreux échecs, bien souvent.
Alors, je crois que nous avons des auditeurs en ligne. Non, il n'y a pas d'auditeurs en ligne encore. Bon, je croyais qu'il y avait des auditeurs en ligne. On va continuer cette émission. On va faire une première pause musicale et puis vous nous appelez au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, ou vous nous écrivez le temps de le dire @rcf.fr.
What we need to survive.
Allez, Stevie Wonder, pour commencer cette émission, le temps de le dire, consacrée aux adultes surdoués, avec mon invitée Monique de Kermadec, psychologue et psychanalyste qui travaille beaucoup auprès de ses enfants et ses adultes. Je vous titillais, ça vous agaçait, hein, pour oui. avoir des noms de, non, gens, oui, de gens célèbres. Allez, vous m'avez dit quand même...
Bah, effectivement, dans l'introduction, je parle d'Hélène Grimaud.
On l'écoutera tout à l'heure.
Voilà, et dans les médias, on parle souvent aussi de certains acteurs, comme Judy Foster, comme différentes personnes, Steve Jobs, des personnes de milieux
d'Apple.
Très différents, voilà. Mais je trouve difficile de donner quelques noms, car nous laissons de côté d'autres personnes qui mériteraient tout autant d'être mentionnées. Voilà.
En tout début d'émission, j'ai fait un petit parallèle amusant avec la série Ma sorcière bien-aimée. L'idée, c'était de dire que c'était peut-être un don.
Il y a, oui, la part de l'inné et de l'acquis dans la douance, c'est une question qui apparaît régulièrement. Il y a une part génétique. mathématiques, c'est vrai, de l'intelligence, on le sait. De là, arriver à des calculs très précis sur le pourcentage dû à l'inné et à l'acquis, une chose est certaine, c'est que quel que soit le potentiel avec lequel nous naissons, le contexte dans lequel nous allons le développer et la manière dont ce don va être accompagné va faire une différence fondamentale.
Oui,
on en avait parlé avec les jeunes enfants. Il ne faut pas après vouloir absolument créer du génie, mais simplement favoriser l'éclosion d'un don, d'un talent.
Parce que si on imagine les bonnes fées autour du berceau, on peut être imaginer qu'être un surdoué, c'est aussi posséder un certain nombre de dons. Et dans ce cas-là, quels seraient ces dons?
Les dons peuvent être des dons de pensée, d'observation, c'est-à-dire avoir les cinq sens qui nous permettent d'entrer en relation avec le monde, de percevoir les choses, peuvent être particulièrement développés chez ces personnes. Elles vont percevoir des détails, elles vont établir des liens entre les choses auxquelles les autres vont peut-être être indifférents. Et c'est ce qui va les faire remarquer dès le plus jeune âge.
Et s'il y a des dons, il y a aussi peut-être un certain malaise et un certain handicap.
Alors, il est vrai que dès qu'on parle de la question de don, on soulève quelque chose qui peut être blessant suivant la façon dont on va l'aborder. Parce que certaines personnes vont dire que c'est profondément injuste.
Ouais.
La question de est-il juste de naître avec plus de dons que quelqu'un d'autre?
On pense à la parabole des talents.
Pense qu'à partir de là, il est important de souligner que nous pouvons avoir des dons très différents. On n'est pas obligé de faire des études brillantissimes et d'avoir un prix Nobel pour pouvoir se distinguer, pour pouvoir se démarquer des autres par des aptitudes qui peuvent être humaines, relationnelles, commerciales, je ne sais. On n'est pas tous obligés de développer nos dons dans la même direction et un don ne donne en aucun cas le droit à la personne de se sentir supérieure. Elle a certainement un plaisir, mais elle a aussi des obligations qui viennent avec ce don.
Alors c'est le temps de le dire, les auditeurs ont la parole, ils peuvent nous appeler au 04 72 38 20 23, ils peuvent aussi nous écrire le temps de le dire @rcf.fr en minuscule et tout attaché. Et on a Isabelle qui nous a écrit, elle nous dit: j'ai découvert à plus de 40 ans que j'étais surdouée, avec un QI au-delà de 145 suite au test de ma fille. Cela m'a beaucoup perturbée. J'ai trouvé une grande aide sur un blog incontournable sur le haut potentiel intellectuel. L'auteur est elle aussi surdouée, elle aussi surdouée et maman de surdouée. Sans ces informations et ces témoignages, j'aurais eu plus de mal à comprendre ce que j'étais et je tenais à lui rendre hommage. J'ai découvert à plus de 40 ans que j'étais surdouée. Voilà, ça c'est
ce
qu'il m'a. Alors, il y a plusieurs choses. J'ai découvert à plus de 40 ans, donc on peut découvrir très tardivement qu'on est surdouée.
La doyenne de mes surdoués est à 82 ans, donc il n'y est jamais trop tard. Bien évidemment, ce que souligne cette maman est très important, c'est que en France, un grand nombre d'adultes ont découvert qu'ils étaient surdoués après avoir consulté pour leurs enfants. Dans certains pays, je dirais, les tests d'intelligence, les tests de QI, sont administrés de manière systématique à l'entrée à l'école. Chez nous, ce n'est pas du tout une pratique courante. Donc, il y a une très grande partie de la population qui ignore absolument son potentiel et son QI.
Et on peut vivre très bien sans le savoir ?
Tout à fait. L'important, c'est de mener une vie qui est satisfaisante à nos yeux. La découverte d'un QI élevé à un âge plus ou moins avancé peut donner à la personne le sentiment d'être peut-être passée à côté de quelque chose. Donc il y a parfois un regret, une certaine tristesse. Et je voudrais surtout dire à ces personnes que ce n'est jamais trop tard pour découvrir qu'il ne faut pas penser que nous avons perdu notre temps. Parce qu'au cours de notre vie, nous apprenons des choses et ce que nous avons appris va nous servir le jour où nous le mettons, bien évidemment, au service de ce don.
Alors Isabelle, elle parle de 145
C'est un QI très élevé.
On peut réexpliquer les QI, ça va de...
Alors, dans les tests, la norme est toujours de 100. On considère que 50% de la population va se trouver aux alentours de 100, entre 90 et 110. Lorsque nous arrivons par exemple à un QI de 120, nous sommes déjà dans une petite partie de la population, puisque 9% d'une population, je veux dire, on va se trouver dans les 9%, et à 130, on est dans les 2%, et à 145, on arrive à 1 pour 1000. Donc, plus nous progressons, je dirais, dans ces QI, plus les scores se répartissent sur une courbe de Gauss, avec donc aux extrêmes, que ce soit en dessous de 100 ou au-dessus de 100, un pourcentage qui diminue.
Alors, avec le QI, on calcule une certaine forme d'intelligence.
Une intelligence cognitive.
C'est ça, hein, mais pas voilà. Toutes les formes d'intelligence.
Absolument pas. C'est une intelligence cognitive qui permet de faire des études. Donc, on apprécie la logique verbale, visuelle, les capacités d'analyse et de synthèse, la mémoire à long terme, la mémoire à court terme, la logique mathématique. Je pourrais faire une liste exhaustive. On apprécie ceci, mais vous pouvez, par exemple, avoir un don pour la musique. Vous pouvez avoir des capacités corporelles qui vont faire de vous un grand sportif. Ça n'est absolument, ou être très créatif, et ceci ne sera pas testé par un test de QI.
Anne-Marie nous appelle depuis Toulon. Bonjour Anne-Marie, merci d'être avec nous.
Oui, bonjour, je me permets de vous appeler. Lorsque j'ai entendu votre intervenante parler de la personnalité des enfants surdoués, j'avais l'impression qu'on parlait de mon fils. Et justement, une maman est souvent... désarçonné face à cet enfant qui est souvent en but à l'école. Je me permets de vous expliquer un petit peu, par exemple, ce qui s'est passé avec mon fils. Il levait toujours le doigt pour répondre le premier. Donc, il dérangeait un peu l'école. Nous l'avons mis dans une école qui, semble-t-il, avait été adaptée à ses capacités. Et là, le premier jour où il est revenu, ça m'a un peu réconfortée sur sa personnalité, car il est rentré en me disant « Maman, il y a beaucoup plus intelligent que moi ». Et ce jour-là, je me suis dit « Mon fils est quand même sauvé quelque part ». Lui qui était un peu rejeté par ses camarades de petite enfance parce qu'il dérangeait en répondant le premier, lorsqu'il a été confronté à d'autres personnalités, il est devenu... lui-même, en fait. Et cette humilité, il l'a toujours en étant adulte. Par contre, c'est un peu épuisant d'avoir un enfant surdoué, parce qu'il faut l'occuper sans cesse. Voilà. Mais aussi, lui laisser sa part d'enfance, sa part d'adulte, lui permettre de rêver et l'ouvrir aux autres. Ne pas l'enfermer dans une espèce de course effrénée. La course effrénée, elle est pour les parents, pour la maman, mais elle ne doit pas l'être pour l'enfant. Voilà ce que je voulais dire. Et pour avoir eu dans mon enfance ce genre de problème aussi, être montré du doigt, je n'ai jamais voulu et j'ai tenu à ce que mon enfant ne saute pas de classe. Parce qu'il fallait qu'il vive sa vie à son rythme. Après, à la maison, bien sûr, s'il souhaitait compléter, découvrir, mettre à sa disposition tout ce que son petit cœur et après sa pensée réclamait. Mais lui laisser son enfance, ça c'est important. Et sinon, il est rejeté, il est mal à l'aise en étant adulte. Et son chemin, si on lui laisse cette liberté de penser tout en l'étouffant, en étant vigilante, il reste humble et il sait partager avec les autres.
Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Anne-Marie pour votre témoignage. Monique de Kermadec, elle a dit beaucoup de choses. Anne-Marie, on va peut-être reprendre les choses point par point.
Oui, c'était un très beau témoignage.
Déjà, la découverte que son enfant est un peu différent,
oui.
Elle dit désarçonné et puis après, il y a un rythme, il faut pouvoir suivre. C'est pas facile pour les parents.
Tout à fait, mais j'avais envie de dire qu'il manquait quelque chose. J'ai trouvé le témoignage, madame, extraordinaire et je vous remercie parce que vous avez fait le tour de nombreux points importants. Vous avez laissé un point de côté qui m'intéressait, qui était le vôtre. Puisque lorsqu'on a un enfant surdoué, bien évidemment, ceci peut nous amener à reconnaître ce qui s'est passé pour nous quand nous étions enfants et donc à chercher aussi à connaître notre mode de fonctionnement. Je trouve que vous soulignez avec beaucoup de sagesse le fait que le parent doit accompagner mais ne doit pas forcer l'enfant. J'ai rencontré l'autre jour des parents qui ont évoqué que pour un enfant de CP, il avait 11 activités le soir en semaine. Alors, je comprends que le parent est bien intentionné, qu'il veut donner le meilleur, mais lorsque on ne laisse plus à l'enfant le temps de vivre, le temps de rêver, le temps d'être tout simplement un enfant.
Et faire apprendre. Des Legos dans sa chambre.
Exactement, mais apprendre à partir de l'expérience, car l'ennui est une façon de mobiliser nos ressources personnelles. Si le parent devient un coach et un super coach à ce moment-là, le parent en fait trop.
Alors elle a dit quelque chose de très beau, lui permettre de devenir lui-même.
Tout à fait.
C'est-à-dire que quand l'enfant est vraiment mal, comme il l'était dans cette première école, il faut pouvoir l'aider, le faire changer d'école, aller dans un environnement plus adapté. Oui,
oui. J'ai trouvé la remarque aussi par rapport à l'intelligence très belle, parce que il est vrai que être intelligent, c'est quand même aussi avoir une certaine humilité. On se rend compte qu'on n'est pas supérieur aux autres, qu'il y en a d'autres qui pensent différemment, qui peuvent penser parfois plus vite que nous. Et c'est un vrai bonheur d'être avec quelqu'un qui est plus intelligent que soi. C'est probablement quelque chose qui me, tous les jours, m'amène à vouloir poursuivre ce travail, cette compréhension. C'est une ouverture sur d'autres possibilités, d'autres mondes. L'humilité de l'enfant surdoué et de l'adulte surdoué sont des points très importants, car le public a tendance à penser que ce sont des personnes très arrogantes, très conscientes de leur supériorité. Et il n'en est rien. Ou alors, cela veut dire que l'enfant a été tellement poussé par les adultes, tellement flatté par l'adulte, que lui-même, je dirais, se transforme et peut devenir comme ça imbu de sa personne, sans très bien savoir pourquoi d'ailleurs.
Autre auditeur en ligne, c'est Olivier qui est à Paris. Bonjour Olivier, merci de nous appeler.
Oui, bonjour.
Il faut que vous baissiez votre radio, Olivier, s'il vous plaît. Hein.
Attendez, oui, je vais essayer.
Allez-y, attendez. Parce que sinon... Oh là là, c'est très désagréable pour nous.
Bonjour Olivier, merci.
Alors Olivier, c'est à vous, nous vous écoutons. Oui. Je rappelle, oui. Hein, toujours baisser la radio. Hein.
Oui, là ça y est, c'est bon là.
Oui, allez-y.
Oui, bonjour Madame de Kermadec.
Bonjour.
Moi j'ai une expérience, là il y a quelques mois, je me suis découvert, j'ai pas été diagnostiqué, c'est-à-dire que j'ai pas passé de test ni quoi que ce soit, mais par contre il y a un article qui est passé dans un magazine, je crois que c'était l'Express, sur les adultes surdoués, où automatiquement, bien sûr, je me suis reconnu, je suis tombé un petit peu sur le cul. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à faire mes recherches sur Internet. J'ai regardé un peu tout ce qui se faisait en conférence, en témoignage, etc., sur la surdouance. C'est un domaine que je découvre, c'est-à-dire que je connaissais les enfants surdoués, mais je savais pas qu'il existait des adultes surdoués. Donc depuis le mois de janvier, je suis un petit peu en pleine période d'effervescence. Et ce qui m'a marqué un petit peu dans mon histoire et puis dans ma vie, c'était que je me posais des questions, à savoir que j'avais une vie socialement et professionnellement qui tenait la route. C'est-à-dire que je suis dans le domaine de l'aéronautique, je suis aussi artiste peintre, et puis je fais aussi plein de choses dans le domaine culturel, associatif. Et ce qui m'étonnait, c'est que j'avais l'impression que j'étais à côté de la plaque, et qu'en fait les gens me comprenaient pas un petit peu dans tout ce que je faisais. C'est-à-dire en partant déjà de ma famille, que j'étais toujours un petit peu reclus parce que j'étais différent de tout le monde, que je m'intéressais à des choses... qui paraissait bizarre pour ma famille, mais qui pour moi avait un sens. Vous comprendrez que pour moi c'est tout nouveau, c'est un petit peu comme un redémarrage, que finalement ma vie reprend un sens dans tout ça, quoi. Parce que en même temps que tout ça, j'ai été gravement malade, c'est-à-dire que je suis tombé un petit peu dans l'alcoolisme. C'est-à-dire que j'ai fait une cure et tout ça. Et puis je suis passé par des phases de dépression très violentes où j'avais l'impression que je n'appartenais pas ici, ni à ce monde, ni à cette famille, ni à personne. Quoi. J'étais un petit peu... il y a le mot extraterrestre. Ben, on m'a déjà traité d'extraterrestre. Et puis moi-même, je me sentais un petit peu très très décalé par rapport aux choses, par rapport aux gens. Et donc, et puis comme c'est l'occasion, j'ai vu sur le Facebook de Madame Monique de Kermadec qui avait cette émission qui passe aujourd'hui. Je l'ai écoutée, puis sur la lancée, je me suis dit, tiens,
pourquoi... vous avez bien fait, merci beaucoup. Voilà, vous n'hésitez pas à participer à cette émission, je vois que ça se bouscule au standard, il y a Olympia et Christine qui patientent. Alors avant de leur donner la parole, juste revenir sur le témoignage d'Olivier qui nous appelait juste avant l'émission, qui venait depuis 6 mois de réaliser qu'il était peut-être surdoué, oui. Et voilà, il nous disait, je suis en pleine effervescence.
Oui, on sentait cet appétit de comprendre, ce désir de comprendre qu'en faire, est-ce que j'ai vraiment raison, et si toute personne confrontée, je dirais, à cette question a le moindre doute, je crois qu'il ne faut pas hésiter à aller poser des questions au bon endroit, ou à lire, ou à s'informer. Il n'y a pas de honte à avoir. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit, chaque midi, je vais à la FNAC et je tourne les pages de votre bouquin. Je n'ai pas encore osé l'acheter parce que je me disais, que va penser la caissière si jamais je viens avec mon bouquin.
Mignon.
Pour en finir, il est allé l'acheter. Je l'ai rencontré. Il est vrai que ce sentiment de différence a besoin d'avoir un nom, a besoin d'être compris. Parce que si la différence reste comme je ne suis pas comme les autres et je n'arrive pas à être comme les autres, bien évidemment, on n'en perçoit que l'aspect négatif. Or, cette différence peut être tout à fait positive et connaître le sens de la différence va permettre à la personne de vivre différemment sa vie. Ce n'est pas que l'étiquette elle-même transforme la vie, mais elle simplifie. C'est comme un puzzle dont les pièces se rassembleraient d'un seul coup. Alors après, une fois qu'on a une vision d'ensemble, bien évidemment, il y a des tas de décisions à prendre et on a besoin de temps de réflexion sur ce que l'on va faire pour donner pleinement sens à sa vie. Mais la première étape de nommer cette différence est fondamentale.
Olympia est avec nous depuis l'Isère. Bonjour Olympia, merci de nous appeler.
Et bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde.
Allez-y, nous écoutons.
Je pose ma question. Il existe dans l'éducation nationale des établissements spéciaux pour les enfants doués en sport. Je pense en particulier à toutes les sections sport-études. Or, à ma connaissance, l'éducation nationale n'a jamais fait ce genre d'établissement pour les enfants que l'on dit surdoués. Il existe bien sûr des établissements de tout niveau, mais qui sont privés et extrêmement onéreux pour les familles. Alors je pose la question, la République aurait-elle peur des neurones performants?
Alors Monique de Kermadec.
Alors je crois que l'éducation nationale va devoir répondre. Je sais que depuis quelques temps, malgré tout, il y a des formations, il y a des sensibilisations qui sont faites pour que les enseignants puissent prendre conscience du fonctionnement intellectuel différent de certains enfants, leur donner des conseils pour les accompagner, et plutôt que de leur demander d'entrer simplement dans la norme, voir comment répondre à leurs besoins, comment les nourrir intellectuellement et leur permettre de rester motivés. Bien évidemment, ceci est un système idéal et il reste encore beaucoup à faire. L'éducation nationale pourrait être directement interpellée à ce sujet.
Christine est avec nous depuis la Gironde. Bonjour Christine.
Bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour madame. Je suis très intimidée de parler. Voilà. Moi, les appels, c'est pour faire. C'est surtout, j'ai un grand ado qui va avoir 16 ans, qui a été dépisté à 8 ans. Et là, depuis 3 ans, il a fait un gros échec scolaire. Il ne veut plus retourner à l'école depuis 3 ans. Et là, il est à la maison, il joue. Il a vu personne parce que son père s'y opposait. Son père a dû se reconnaître et bon, il a laissé tomber. Et donc là, ben maintenant, on est un peu dans l'impasse. On ne sait plus trop quoi faire parce qu'il ne veut voir plus personne. Personne ne peut faire essai pour lui. Et donc, on est un peu dans l'impasse, on ne sait pas quoi faire pour sa future vie, pour parce qu'on a l'impression qu'il perd son temps à la maison.
Bien sûr. Il a quel âge exactement ?
Il va avoir 16 ans, en avril.
16 ans. D'accord. Merci Christine, on va essayer de vous répondre.
Alors là, il y a un double travail à faire. Je dirais que le premier est avec le père. D'essayer de mobiliser le père pour qu'il comprenne pour quelles raisons il ne souhaite pas que son fils puisse consulter. Manifestement, ce garçon s'est retrouvé dans une situation qui peut-être s'est répétée, où il s'est senti incompris, où il s'est senti rejeté, où il n'a pas su trouver sa solution. Et de fil en aiguille, il a désinvesti l'école. Et là, il est important que quelqu'un puisse, avec lui, l'aider à comprendre pourquoi il a désinvesti l'école. Manifestement, c'est une histoire de désamour. Parce que la part affective est toujours très importante pour les enfants précoces. Et lorsqu'ils ne se sentent pas investis par l'enseignant, certains décrochent complètement. Alors si son père a eu un parcours chaotique, si son père a lui-même été victime dans ce parcours scolaire, il est important de l'aider à percevoir qu'aujourd'hui, il peut encore faire quelque chose pour son fils. Quand on est surdoué, on a plus de chances, c'est vrai, de s'en tirer dans la vie, que l'on ait fait des études ou pas. Mais 16 ans, c'est un moment clé, c'est un moment critique. Il n'est peut-être pas obligé de faire des études supérieures très longues, mais il faut l'aider à trouver sa voie et s'épanouir dans un domaine, quel qu'il soit. Donc, madame, si vous le pouvez, utilisez la famille, les amis, des relations, quelqu'un qui puisse permettre à ce père de bouger de cette position, car il est malgré tout un modèle pour son fils.
Alors, il y a un mail de Jean-Michel qui nous dit « À l'occasion d'un énième bilan de compétences, j'ai découvert à plus de 50 ans que j'avais un QI de 147. En relisant ma vie personnelle et professionnelle, j'ai compris que j'en avais été avertie par de nombreux indices et que notamment mes parents le savaient depuis le début. J'ai eu l'impression d'un immense gâchis. J'ai alors compris pourquoi je m'étais toujours sentie en décalage dans ma vie professionnelle, ce qui s'est traduit par un parcours professionnel chaotique et s'est terminé dans un burn-out terrible qui m'amène aujourd'hui vers une situation d'invalidité reconnue par la médecine du travail. Dieu merci, ma vie relationnelle est riche et ma vie de famille compense largement ce mal-être constant qui a toujours été mon lot. Alors, oui. On va peut-être commencer par les derniers mots. Ce mal-être constant qui a toujours été mon lot, ce sont des mots que vous entendez souvent dans la bouche de vos patients.
C'est un véritable parcours du combattant que nous entendons là et qui malheureusement, je dirais, arrive plus souvent qu'on ne le voudrait. Ce que j'aimerais dire malgré tout à cet homme, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour voir comment lui, par rapport à ses intérêts, par rapport aux compétences qu'il a acquises au travers des années, il peut aujourd'hui utiliser d'une autre façon que peut-être en étant employé par une entreprise, certaines aptitudes, certaines connaissances, et que s'il le peut, que localement il essaye de parler avec un spécialiste de la douance pour pouvoir percevoir la richesse qui est en lui et comment l'utiliser aujourd'hui d'une manière nouvelle. Je suis heureuse de savoir que sa vie personnelle est satisfaisante et riche, mais ce n'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on doit renoncer malgré tout à une vie professionnelle.
On ne peut pas être à la retraite à 50 ans et tout arrêter, même si la... Disons, se mettre en retraite du monde.
Voilà. Je dirais en retrait du monde plutôt que la retraite, parce que certaines personnes cessent de travailler officiellement pour une entreprise, mais s'engagent dans des projets personnels qui sont très riches et très satisfaisants.
Marie-Noëlle est avec nous depuis la Charente-Maritime. Bonjour Marie-Noëlle.
Oui, bonjour. Je suis. Écoutez, c'est déjà fabuleux parce que ma question concerne ce qui vient d'être dit. Donc déjà, merci. Moi, j'appelle parce que je suis mère de précoce, femme de précoce et fille de précoce, et avec le sourire. Merci pour tout ce qui est déjà partagé à l'antenne aujourd'hui. Si je vous appelle aujourd'hui, c'est plus particulièrement pour mon mari, qui lui a 40 ans. Il est professeur de musique pour l'éducation nationale en collège et il est en mal-être aujourd'hui dans son travail. Il cherche à changer de voie professionnelle. Alors, en dehors du fait que c'est difficile de quitter l'éducation nationale, ce qui lui est très difficile pour lui en ce moment, c'est d'être noyé par ses idées, par son cerveau qui fonctionne tout le temps, et finalement de ne pas savoir vers quoi se tourner, puisqu'au final, les mots font peur, mais il faut le dire, il est multitalentueux. Il ne sait pas s'il doit être électricien ou pâtissier, maçon ou musicien. Son cerveau le noie, et il a aussi du mal à admettre qu'il porte tout ça en lui.
Merci beaucoup Marie-Noëlle. Alors multitalentueux, c'est joli.
Oui, c'est un point très important que vous soulignez, madame, parce que on le retrouve aussi à l'adolescence lorsqu'il faut choisir une orientation, une formation. Un grand nombre d'adolescents surdoués ne savent pas que choisir parce que plusieurs voies sont ouvertes et choisir quelque chose, c'est renoncer à d'autres plaisirs potentiels. Ce qui me semble important pour votre mari, c'est qu'il puisse en parler avec quelqu'un, parce que fondamentalement, il est dans un domaine qui peut être riche, qui apporte des satisfactions personnelles. Il est possible que dans le collège où il enseigne, le contexte ne soit pas, je dirais, satisfaisant pour lui. Mais cette formation, rajoutée à d'autres, probablement d'autres talents personnels, pourrait déboucher sur un fonctionnement nouveau. Donc je ne saurais trop l'inciter à parler avec quelqu'un, pas nécessairement à faire un bilan de carrière, mais à parler pour reprendre contact avec tout ce qui lui plaît et voir comment le puzzle pourrait s'assembler différemment.
Monique de Kermadec, les adultes surdoués ont souvent l'impression d'être incompris.
Oui, mais qui ne rêve pas dans la vie d'être vraiment compris? Je crois que c'est un désir universel. Il est vrai que la différence parfois va faire que on a le sentiment d'être absolument incompris par les autres. Mais l'effort de compréhension doit exister autant de la part du surdoué que celui des autres. Car si le surdoué est conscient de sa différence, ça lui permet aussi de ne pas attendre des autres d'être exactement comme lui. Et il évite ainsi des situations pénibles dans un contexte professionnel, amical, voire même familial. Parce qu'il ne va pas penser que l'autre est de mauvaise foi. Il va simplement comprendre que l'autre est différent et qu'il faut l'accepter avec sa différence aussi.
Solange nous appelle depuis le Morbihan. Bonjour Solange.
Oui, bonjour Monique, c'est ça?
Bonjour. Oui.
Voilà, allez-y, oui.
Comme j'ai dit, j'ai pris l'émission tout à fait en cours. J'ai donc entendu le dernier témoignage et je me suis complètement reconnue dans ce témoignage de ce monsieur qui disait qu'il avait été prof. Bon, moi aussi, j'ai enseigné. Et Enfin, j'ai fait un peu tout. J'ai fait un peu tout. J'ai rué tout le temps dans les brancards. Et depuis toute petite, donc j'avais l'impression que je m'ennuyais. J'étais tout le temps dans l'ennui. J'ai sauté des classes. Par contre, j'en ai redoublé. Quand je m'ennuyais, ben je redoublais ou je m'amusais, je n'écoutais pas. Et puis quand par contre ça me plaisait, alors j'avais des prix d'excellence et je sautais des classes. Donc j'ai fait du latin. Toute petite, je lisais. Mon père me faisait lire des livres qu'on donne à des adultes. Kafka, La Métamorphose. J'avais 4 ans quand j'ai lu ça. Ça m'avait énormément impressionnée d'ailleurs. Et j'étais toujours en train de me poser des questions philosophiques, intellectuelles. J'ai aussi eu pas mal de dons paranormaux. J'ai toujours d'ailleurs, je crois que même c'est de plus en plus. Et puis par contre, des parcours chaotiques, parce qu'on a beaucoup voyagé, des brisures de vie, et me sentant de plus en plus, à part quand j'ai aussi des années quand même de bonheur, avec des collègues profs avec qui je m'entendais, mais qui étaient justement un peu hors normes, qui étaient très doués. Et alors le gros problème, c'est que j'avais énormément de talent, je savais peindre, j'aimais danser, j'avais énormément de dons, et je demandais d'ailleurs, je suis chrétienne, et je demandais beaucoup à par la suite, j'ai demandé beaucoup au Seigneur de me dire quel talent pouvoir exercer, parce qu'actuellement, je suis complètement liée et ligotée, de par la conjoncture aussi, d'ailleurs. Et voilà. Donc, je voulais savoir s'il y a des thérapeutes ou des personnes qui peuvent nous aiguiller sur... parce que j'ai toujours envie de faire des choses, mais surtout artistiques, ou alors joindre des groupes, mais je me sens pas bien dans les groupes. Il y en a pas qui, très rares qui me correspondent ou qui, et j'ai essayé, puis je me suis mis à tous les niveaux, je connais tous les niveaux, et je dois dire que quelquefois ce sont des niveaux très humbles, des gens très très humbles qui sont pas du tout intellectuels, mais qui ont une sagesse du cœur ou de la nature, parce que je suis épanouie dans la nature.
Alors Solange, on va essayer de vous répondre. Merci pour votre témoignage. Quand on entend Solange, on a l'impression qu'elle a tellement de talents qu'elle ne sait plus lequel choisir, c'est ça ?
Oui, mais la question des multiples talents, on se pose fréquemment parce qu'il est vrai que quand on écoute des adultes surdoués, on se rend compte que s'ils sont bons dans certains domaines, ils ont aussi des capacités artistiques, ils sont créatifs, ils ont différents supports, je dirais, à leur créativité, à leur sensibilité. Je crois que ça a un lien aussi avec cette caractéristique d'une très grande sensibilité et cette caractéristique d'une créativité. Donc, ils ont beaucoup de mal à se consacrer exclusivement à une seule chose. Un grand nombre, en avançant dans la vie, vont d'ailleurs investir des domaines artistiques. Je remarque que, parallèlement à des exercices professionnels très différents, les personnes peignent, elles écrivent, elles chantent, elles reprennent un instrument qu'elles ont pratiqué dans l'enfance et tout d'un coup, où il devient important de jouer du piano, du violon, de la flûte. Parler est certainement important. J'espère, madame, que vous arriverez à trouver le bon interlocuteur, parce que...
Selon vous, elle posait la question de l'intérêt de faire une thérapie.
Alors, la thérapie n'est pas, je dirais, une indication systématique. Elle peut être importante lorsque la personne a le sentiment qu'au cours de sa vie, elle a eu à modifier qui elle était pour entrer dans le désir des autres, pour se faire accepter. Elle s'est créée une personnalité qui n'est pas fondamentalement la sienne, et donc, elle a l'impression de vivre à côté d'elle-même. Et c'est une des questions les plus fréquentes de ceux qui viennent voir un thérapeute et qui ont besoin aussi d'être compris en tant qu'adultes surdoués. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas simplement faire une thérapie parce qu'ils sont déprimés, mais il y a une cause précise à leurs yeux, à l'arrière de cette souffrance. Donc oui, une thérapie peut être importante. En tous les cas, la possibilité de parler de soi et d'avoir une écoute, je dirais, ouverte et positive, est absolument fondamental.
Alors, il y a aussi la question d'être en groupe. Elle nous dit, elle a été dans plein groupe, elle est toujours mal à l'aise. Est-ce que ça existe des groupes de parole pour surdoués, par exemple ?
Bon, ben, il y a effectivement, il y a des blogs, il y a des groupes. On sait très bien qu'il y a quelques associations d'adultes surdoués aussi. Mais certains adultes surdoués n'aiment pas le fonctionnement en groupe. Donc, ils y vont une ou deux fois par curiosité et surtout pour y trouver un ami ou une amie qui pensera, qui sera comme lui ou comme elle. Mais ils vont parfois à une réunion et puis ils ne vont pas à d'autres parce qu'ils ont eu le plaisir de découvrir quelqu'un avec qui ils vont continuer à avoir une relation d'amitié. D'autres, par contre, ont été tellement isolés dans leur enfance que la pensée même que de trouver un groupe qui aura des activités qui les inclura trouve ça absolument important. Donc on voit les deux tendances, hein, le groupe et faire seul. L'important, c'est d'être en harmonie avec soi. Si on préfère les temps de solitude, il ne faut pas se forcer à avoir des activités de groupe, nécessairement. Par contre, si on se sent isolé, vraiment, il ne faut pas hésiter.
Pierre est avec nous depuis Bourges. Bonjour Pierre, merci d'appeler.
Allô ?
Oui, c'est à vous Pierre.
Je vous remercie. Eh bien, écoutez, oui, moi je vous appelle, c'est marrant parce que ça fait un peu un écho à la personne qui parlait juste avant. Moi je vous appelle parce que je ne connais pas du tout mon quotient intellectuel et tout ça. Je sais qu'on m'a fait sauter une classe quand j'étais en maternelle parce que on a dû m'en faire passer un, que j'ai redoublé par la suite. Mais en fait, voilà, je vous appelle parce que j'ai beaucoup de cordes à mon arc, en fait, dans le domaine artistique. Je suis sculpteur, je fais beaucoup de guitare, du piano. J'ai tout le temps besoin de m'occuper l'esprit quand je rentre chez moi et que j'étais, enfin, j'ai pas le problème de la dame précédemment parce qu'en fait, j'en ai fait mon métier, donc ça me permet vraiment d'en vivre et, enfin, d'avoir un retour vis-à-vis de ça. Mais en fait, je vous appelle parce que, il y a quand même, comme si jamais il y avait un côté obscur à cette qualité-là, c'est que les gens qui me connaissent bien et même ceux qui me connaissent pas vous diraient comme quoi je suis complètement, je dirais pas bordélique, mais en fait, je perds absolument tout. J'ai pas mal de problèmes pour me rappeler des choses. Et c'est comme si jamais j'avais une vitesse de pensée, mais qui n'était pas adaptée, en fait, au monde qui se passe autour de moi.
Eh bien, merci Pierre. Je crois que ça fait tilt chez Monique de Kermadec, ce que vous êtes en train de nous dire. Donc, Monique de Kermadec.
J'ai bien aimé votre expression s'occuper l'esprit parce que, effectivement, des démarches artistiques variées, que ce soit la peinture, la sculpture, la musique et tout cela, peuvent avoir plusieurs, je dirais, peuvent avoir plusieurs rôles pour l'adulte surdoué. Un, bien sûr, c'est d'abord une possibilité d'expression personnelle, quelque chose qui est en harmonie avec leur sensibilité. C'est aussi quelque chose qui peut permettre de focaliser l'attention pour tous ceux qui ont une, j'allais dire, une pensée obsédante, une pensée omniprésente, où allant de question en question, ils arrivent parfois à se sentir absolument épuisés par ce fonctionnement de leur pensée. Et lorsqu'ils se livrent à une activité artistique, que ce soit le chant, la musique, à ce moment-là, la pensée arrive à se focaliser à nouveau. Et donc, cette pratique artistique a aussi un côté thérapeutique pour eux. C'est à la fois un côté créatif et un côté thérapeutique.
Alors, il y a un mail de Michel qui est arrivé. Et Michel, il n'est pas convaincu. Hein. Il nous dit « En quoi est-ce important d'analyser une personnalité, de la définir surdouée, si cela n'enlève rien à ses souffrances, mais au contraire, risque de l'induire vers un complexe de supériorité, avec pour conséquence des effets d'orgueil, risquant de l'isoler un peu plus de son environnement ?»
Oui, mais là, vous soulignez toutes les conséquences négatives possibles. Se connaître est toujours fondamental pour pouvoir utiliser au mieux nos talents, pour pouvoir être nous-mêmes, pour pouvoir contribuer au monde dans lequel nous vivons. En aucun cas, je dirais, une différence, que ce soit les yeux bleus, la taille, le QI ou quoi que ce soit, ne justifie que nous nous sentions supérieurs aux autres. Nous avons nos spécificités, il nous appartient, nous avons la responsabilité de développer ce que nous possédons et de l'utiliser au mieux pour contribuer au monde dans lequel nous vivons. Il n'est pas question de se dire surdoué pour montrer une supériorité quelconque.
Oui, puis au début, il y avait un témoignage d'une maman qui soulignait l'humilité de son enfant. Qui disait...
Tout à fait. Je crois qu'une véritable preuve d'intelligence, c'est de concevoir et de percevoir et même d'être persuadé que nous savons très peu, en fait. Même quelqu'un, je dirais, qui est acclamé pour sa science, pour ses connaissances, a conscience des limites de ses connaissances. Donc,
c'est comme ça qu'on reconnaît les
oui,
grands
artistes.
Oui, plus on
en sait, plus on sait aussi qu'on ne sait pas.
Alors, il y a un mail de c'est Charles. Il nous dit « J'ai le grand plaisir de vivre aux côtés d'un enfant particulièrement éveillé, aux côtés duquel on a l'impression d'être plus intelligent. Je ne sais s'il est surdoué, et ça ne nous semble pas important de savoir, car le risque nous paraissait fort d'en faire quelqu'un à part. Et donc, nous avons pris le parti de laisser les choses se faire en confiance. » Aujourd'hui, parfois, je me demande si nous avons bien fait de ne pas le booster. Il a maintenant 15 ans, mais ce qui nous rassure, c'est qu'il a l'air de plus en plus sociable et bien dans sa génération, bien que ses résultats scolaires n'aient rien de fabuleux. Qu'en pensez-vous ?
Alors, je pense que c'est vrai que le contact avec le surdoué est source de joie. C'est un vrai plaisir. C'est un plaisir parce qu'il y a une intensité dans la relation, il y a une complicité. Que des parents veillent à l'épanouissement affectif de l'enfant me paraît absolument important. Parce que c'est une question qui n'est pas toujours soulevée. Que ce soit pour l'enfant ou pour l'adulte, je dirais que l'intelligence cognitive est certes importante, mais l'intelligence émotionnelle est encore plus importante. Maîtriser, avoir conscience de ses émotions, les maîtriser, avoir conscience des émotions des autres et savoir entrer en relation de manière positive avec les autres est beaucoup plus important qu'un chiffre de QI.
Ça, c'est un jour, il faudrait qu'on fasse une émission sur l'apprentissage des émotions chez les enfants. Je crois que ça pourrait être intéressant et important. On va écouter, on parlait d'Hélène Grimaud au début.
Tout à fait.
Vous la citez dans votre livre. Mmh. C'est une artiste qui a réussi à trouver sa voix.
Tout à fait, mais elle écrit aussi, voilà. Comme tout un nombre d'auditeurs doivent le savoir.
Alors, Hélène Grimaud, pianiste, et là, elle est accompagnée par Françoise Hardy. C'est extrait de l'album de Françoise Hardy, Parenthèse, La valse des regrets.
L'orgue de la nuit, au clair de lune, gémit. La brise fait de son archet chanter la valse des regrets. Mon bel amour, au bois dormant, quittez vos rêves. Troublant, vous éveillant tout doucement, venez vers moi qui vous attend. Venez vers moi, il est grand temps, calmez les mois d'un cœur qui bat devant l'effroi d'une prière vaine. L'ombre s'alanguit, des formes glissent. Sans bruit et du passé, vestiges usés, nos souvenirs s'en vont danser. Comme l'arc-en-ciel après la pluie, comme le soleil après la nuit, serai-je celle qui chassera vos peines? L'orgue de la nuit, au clair de lune, gémis toujours dans mon cœur lourd qui n'attend plus que votre amour.
Voilà, c'est beau, hein. Françoise Hardy et donc Hélène Grimaud au piano. Je découvre cette chanson pour cette émission, Le Temps de le dire. Voilà, c'est toujours Pierre-Henri qui est de l'autre côté de la glace pour réaliser l'émission. Et nous sommes toujours avec Monique de Kermadec pour parler des adultes surdoués. Vous êtes très nombreux à nous appeler, hein, au 04 72 38 20 23 et à nous écrire letemps-de-le-dire@rcf.fr en minuscules et tout attaché. Je voudrais vous lire un mail qui est arrivé en début d'émission de Jean-Bernard. Il nous dit, adulte surdoué, identifié tardivement à 35 ans, je suis encore à la recherche de mon ou de mes dons. Et ensuite, comment en tirer profit pour vivre une vie heureuse? Dernièrement, ma compagne a découvert elle aussi, à 41 ans, qu'elle était surdouée. Et puis, ma fille de 13 ans a été identifiée surdouée à 5 ans. Nous avons aussi une petite fille de 10 mois. La question, si la petite dernière est elle aussi surdouée, comment s'épanouir tous ensemble dans une famille de surdoués lorsque nous sommes tous hypersensibles et chacun avec ces dons pas forcément clairement identifiés. Est-ce que c'est très différent qu'une famille, une famille normale, je vais dire, voilà. Finalement, la question se pose pour toutes les familles.
Je dirais que la question se pose pour toutes les familles. Comment avoir des relations harmonieuses? Comment faire preuve de tolérance à l'égard des autres? Comment être un parent qui est à la fois un guide, aimant, qui n'est pas nécessairement le copain des enfants, mais qui garde bien son rôle de parent? Je crois que, après tout, les surdoués connaissent quand même leur mode d'emploi et devraient pouvoir aider au mieux leurs enfants.
finalement, c'est peut-être une chance pour ces enfants de naître de parents qui savent de quoi ils parlent.
Mais on ne naît pas surdoué dans une famille où il n'y a pas déjà d'autres surdoués, parce qu'il y a une part génétique.
Il y a une part génétique, oui.
Donc, moi, je suis toujours amusée en consultation de voir, lorsque les résultats sont donnés, des mères dire « Ah oui, mon mari est très brillant, mais je suis étonnée de la, je dirais, de la modestie des mères, car effectivement, l'enfant hérite à la fois de son père et de sa mère, et que la question peut se poser des deux côtés. Alors, quand vous dites ça, moi, ça me fait penser à ceux qui disent « Est-ce qu'on peut être heureux en couple si on n'est pas de surdoués ensemble ?» Et il est vrai que, de toute façon, dans la cour de récréation, même dès le plus jeune âge, les petits surdoués ou les petits précoces vont plus facilement vers d'autres surdoués ou d'autres précoces, ou alors ils vont vers des enfants qu'ils peuvent protéger. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on remarque.
Jacques est avec nous depuis Lille. Bonjour Jacques.
Bonjour. Je vous remercie de prendre à l'antenne.
Oui, nous vous écoutons, allez-y.
J'ai entendu plusieurs témoignages là, et je me demandais s'il ne pouvait pas y avoir une erreur de diagnostic entre surdoué et syndrome bipolaire. C'est une grande créativité dans le syndrome bipolaire. Moi, personnellement, j'ai toujours eu l'impression d'être en décalage, d'avoir des idées. On m'a classé parfois indépendant psychique. D'avoir toujours des idées originales, surtout. Et sur un plan spirituel, ça pourrait ressembler à de l'acédie, par exemple, dans la période de grande dépression. Et puis dans les périodes que les psychiatres appellent maniaques, des idées qui... Le cerveau qui va 10 fois plus vite que que la parole, etc.
Oui.
Allô?
Oui, oui, on vous écoute, Jacques. Merci pour votre témoignage. Nous avions fait une émission sur la bipolarité il y a quelques mois. On peut l'écouter, elle est en ligne sur le site internet de RCF. Alors, est-ce qu'il y a des liens entre bipolarité et puis précocité?
Monsieur soulève une question absolument importante, parce qu'il est vrai que parfois il y a une confusion entre être bipolaire et le fonctionnement du surdoué, avec ses grands enthousiasmes et ses périodes de creux. Certains psychiatres sont maintenant quand même très avertis de ce fonctionnement d'adultes surdoués. Moi, je travaille avec plusieurs qui le font très très bien. Il n'est pas exclu, on peut être surdoué et être bipolaire, mais parfois il y a un faux diagnostic de bipolarité, parce que il y a effectivement une vivacité de la pensée, un foisonnement de pensées, de désirs, de projets, d'enthousiasme qui font craindre à certaines personnes qu'il s'agit d'un trouble bipolaire. Donc si quelqu'un a vraiment...
La difficulté à vivre sa douance n'est pas forcément une forme de bipolarité.
Absolument pas, absolument pas. Je veux dire, tous les surdoués ne sont absolument pas bipolaires, mais on peut trouver rattaché à un fort QI, par exemple, d'autres symptômes, puisqu'on a évoqué, et je crois que certaines personnes ont posé la question du syndrome d'Asperger.
Alors voilà, il y a beaucoup de mails qui arrivent sur cette question-là.
Ce n'est pas parce qu'on a un syndrome d'Asperger qu'on est nécessairement
surdoué. Alors, on peut peut-être expliquer syndrome d'Asperger, qu'est-ce que c'est? Alors, rapidement, mais...
Je pense que, bon, il faut quand même... Je déteste être très rapide là-dessus, parce que c'est un diagnostic qu'on ne peut pas passer comme ça à la légère. Il y a effectivement associé à... comment pourrait-on dire, des troubles du comportement, des difficultés relationnelles, des difficultés lors des apprentissages qui peuvent se retrouver liées beaucoup plus au fonctionnement relationnel. Je ne saurais trop inciter les parents qui se posent cette question d'en parler en détail avec le pédiatre, ou de faire déjà des recherches sur le sujet, parce que je ne voudrais pas donner de fausses clés qui permettraient très rapidement d'arriver à ce diagnostic. Mais on peut être surdoué et avoir parallèlement d'autres symptômes ou d'autres troubles. On voit chez les enfants, par exemple, de grands dyslexiques qui, néanmoins, sont particulièrement brillants intellectuellement. Donc, quel que soit le symptôme parallèle, on ne peut pas nier la douance. Et je crois qu'il faut qu'on prenne soin des deux, qu'on ne nie pas une part de la personne. Et quand il y a doute sur le diagnostic, ne pas hésiter à consulter, ce qui n'empêchera absolument pas de prendre soin de cette douance parallèlement.
Marina est avec nous depuis la Vendée. Bonjour Marina. Marina, est-ce que vous êtes là?
Oui. Bonjour.
Alors, nous vous écoutons.
Bonjour. Alors moi, je voulais apporter mon témoignage parce que j'ai 34 ans. J'ai été identifiée un peu sur le tard aussi, puisqu'il y a à peu près 2 ans. C'est une amie coach qui avec qui j'ai eu beaucoup d'affinités, qui m'a poussée vers ce questionnement, puisque j'ai eu un parcours professionnel très très chaotique, toujours d'ailleurs, mais bon, c'est en train de s'améliorer. Voilà, une très, en fait, une Beaucoup de jouissance intellectuelle, on va dire, mais émotionnellement très sensible. Et forcément, ça pose un petit peu problème. Donc cette amie m'a orientée vers ce questionnement. Et puis c'est vrai que j'ai creusé. Je suis d'ailleurs allée dernièrement à Intelligence Day. J'ai pu avoir beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions dans ces conférences. Ça m'a vraiment beaucoup touchée, beaucoup émue. Voilà, moi ce que je voulais dire surtout, c'est que j'ai fait beaucoup de psy. J'en ai vu beaucoup, et puis avec un peu de tout. Et puis dernièrement, je suis tombée sur... en fait, c'était pour mes enfants, et puis je suis tombée sur une psychologue qui est très jeune pourtant, mais qui m'a amenée vers ce questionnement d'une façon vraiment très intéressante, sans jugement, simplement en m'expliquant... je pense que voilà, il y a eu j'ai développé un faux self assez... c'est conséquent. Donc on travaille dessus et depuis, je dois vous dire qu'en l'espace de 4 mois, je reprends confiance en moi, je redéfinis mon parcours professionnel, je regarde la vie différemment. Et voilà, je pense que faut pas se déprimer des psychologues, c'est nul, ça ne m'apporte rien. Parce que c'est vrai que le souci, enfin moi ce que j'ai rencontré, c'est que j'arrivais à avoir le dessus. Enfin, je sais pas comment dire, mais... ça devenait un jeu et en fait je me lassais. C'est peut-être prétentieux, mais bon, c'était. Je voyais qu'on n'arrivait à rien. Et puis finalement, j'ai rencontré cette personne et là, ça va beaucoup mieux.
Eh ben, c'est super. Merci Marina pour votre témoignage. Je voudrais qu'on revienne sur deux points du témoignage de Marina. Elle a parlé de faux self. Alors tout ça, c'est un petit peu du jargon.
C'est un point important et que j'ai beaucoup développé dans mon livre parce que nous construisons notre personnalité et notre identité dès l'enfance au travers du regard de l'autre. Et si l'autre attend certaines choses et des choses qui peuvent être différentes de qui nous sommes fondamentalement, pour se faire aimer et pour être accepté, l'enfant puis l'adolescent va choisir des comportements et même progressivement des idées qui sont destinées à être acceptées par l'autre. Cette démarche peut aller tellement loin qu'arriver à l'âge adulte, l'homme ou la femme ne sait plus vraiment qui il est, si ce n'est qu'il a conscience qu'il est autre chose, qu'il vit à côté de sa vie et que si vraiment on le connaissait tel qu'il est, on ne risquerait de ne plus l'aimer. Donc c'est là où le travail et un accompagnement par un psy peut être important pour l'adulte surdoué, c'est-à-dire qu'il est important progressivement de s'autoriser, de reprendre contact avec qui on est, de s'autoriser à être soi-même. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jeter un masque en se disant « demain je vais dire au monde entier ce que j'en pense ». Parce que quand je dis ça, je repense à la colère qui était exprimée tout à l'heure par le grand adolescent dans... un parent parler.
Ça, je ne l'ai pas encore lu, je voulais lui en rentrer.
Pardon. Alors, je ne dirai rien sur la colère.
Non, mais peut-être Marina, son témoignage est quand même enthousiasmant, parce qu'elle nous dit, en 4 mois, elle s'est transformée, elle s'est sentie se métamorphoser.
Tout à fait, mais quel bonheur d'avoir enfin le sentiment qu'on peut être entendu, le sentiment qu'on peut être accepté et trouver sa place telle que nous sommes et sans avoir à nous transformer pour plaire à l'autre.
Alors, puisque vous évoquiez ce mail qui parlait de la violence, c'est Sylvie qui nous a écrit, elle nous dit « Je suis la maman d'un jeune adulte précoce de 25 ans qui ne va pas bien. » Elle nous dit « Agressivité, violence même, comportements qui peuvent s'apparenter à des tocs. Je ne sais pas trop comment l'aider. Il prépare le concours de professeur des écoles après un parcours chaotique, après un bac avec mention très bien. »
Oui, la question de la colère se retrouve chez certains adultes surdoués parce que le parcours a été tellement chaotique, il a été tellement blessant que pour en finir, il y a une certaine colère, une certaine rancœur qui s'est mise en place et parfois la colère se retourne contre soi, c'est-à-dire qu'elle peut mener à des comportements d'échec. On laisse tomber l'école parce qu'on est en colère contre certains professeurs, parce qu'on a le sentiment d'avoir été particulièrement incompris. On peut se mettre en colère au travail parce qu'on a le sentiment que son employeur abuse ou ne comprend pas qui l'on est. Et il est important pour ces adultes surdoués de je dirais, de pouvoir parler de ce qui est à l'origine de cette colère pour pouvoir la mettre de côté et avoir à nouveau des rapports positifs avec les personnes qui sont autour d'eux. Je comprends que cette mère se sente impuissante dans la mesure où la colère peut aussi garder son fils à l'écart de toute personne susceptible de l'aider à évoluer. Donc, qu'elle fasse preuve d'empathie, qu'elle lui dise « je comprends que tu souffres et que tu as été déçue ». Et que peut-être il faut aller parler avec quelqu'un pour comprendre comment ces déceptions répétées t'ont amené à ressentir une telle colère. Aujourd'hui, l'enjeu n'est pas simplement de pardonner aux autres. L'enjeu, c'est de pouvoir fonctionner autrement que par la colère.
Alors, c'est Valérie qui nous écrit. Elle nous dit « Je vis actuellement une sorte de coming out à la suite de la découverte du haut potentiel de mon premier enfant qui m'a mené à me poser des questions sur moi-même étant donné que je me reconnaissais totalement dans ce profil et j'ai d'ailleurs sauté une classe dans mon enfance. Je m'interroge cependant sur le fait de se faire soi-même tester à ce sujet. J'ai peur de ce que pourrait donner un tel test. Et si le résultat était positif, vivrais-je encore plus douloureusement le sentiment de m'être coupée d'une part de moi-même pour pouvoir m'intégrer aux autres, que ce que je ressens depuis le début de ce coming out. Et s'il est négatif, devrais-je composer de nouveau avec un sentiment d'être décalé et différent des autres, que j'ai passé des années à enfouir en moi et qui vient d'être réveillé sans plus aucun espoir d'explication ?»
Ah, ces commentaires me font penser à quelque chose de très important. Quand on m'appelle et qu'on me demande de faire un bilan, je ne teste jamais quelqu'un sans avoir compris ce que représente passer un test et les résultats du test.
Ce n'est pas anodin.
C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que la personne recherche sur elle-même au moment où elle demande un test. Le test peut être tout à fait positif pour certaines personnes qui, n'ayant par exemple pas fait suffisamment d'études, souhaitent savoir s'il ou elle avait le potentiel de faire des études supérieures. Ça peut être fait par des personnes qui ont un parcours aux yeux du monde de réussite, mais qui n'ont pas de diplôme prestigieux, qui ont côtoyé à tout moment des diplômés de grandes écoles et qui veulent se montrer quelque part, qu'ils avaient ce qu'il fallait pour être élèves dans une grande école. Mais d'autres vivent cela comme une sentence, comme une condamnation ou une promotion. Or, le test de QI va nous donner des renseignements sur le fonctionnement intellectuel, sur nos forces, sur nos vulnérabilités, mais en aucun cas ne résume entièrement qui nous sommes. Ce n'est pas parce que nous avons 120 QI ou 105 de QI que tout d'un coup nous sommes réduits à...
Heureusement, notre personnalité ne tient pas dans un QCM.
Absolument pas. Je dirais, à la limite, on me donnerait le choix entre avoir un QI très élevé et une intelligence émotionnelle élevée. Je n'hésiterais pas un instant, je prendrais le second. Parce que pour vivre positivement en société, pour vivre positivement avec les autres, c'est cette intelligence qu'il nous faut avant tout. Résoudre des équations du second degré, très précieux pour la société, mais ce n'est pas nécessairement la réponse à une vie harmonieuse et satisfaisante. Donc, une personne qui aborde le test comme une réponse définitive sur sa valeur a besoin de parler avec quelqu'un avant et de comprendre à la fois les limites du test et les richesses du test, ce qu'il peut apporter, quelle réponse, tout en sachant que ce ne sera pas une réponse globale sur la personne.
Le mail, c'est le temps de le dire, @rcf.fr, en minuscule et tout attaché. Alors, je sais que c'est parfois difficile, hein, quand on intervient à l'antenne, qu'on témoigne, qu'on raconte des choses qui sont essentielles dans sa vie, qui sont au cœur de soi. Parfois, c'est un peu frustrant parce que moi, je suis obligée de vous couper, puisqu'il y a d'autres auditeurs qui attendent. Et puis, il faut aussi respecter les gens qui écoutent. Et puis, il faut pouvoir vous donner la parole. Donc voilà, je suis désolée, mais c'est aussi la règle du jeu d'une émission de radio. Même si on est avec une psychologue, eh ben, on n'est pas dans le cabinet du psy. Et si on parle, c'est avant tout pour le partager avec les autres. Voilà, donc désolé pour ceux qui ont mal vécu le passage à l'antenne, mais c'est comme ça, c'est une émission de radio et non pas une séance de psychologie. Alors on continue, il y a un mail qui est arrivé de Catherine, elle nous dit « Vous parlez beaucoup de la sensibilité, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le monde est sensible ?»
Alors, tout le monde a une certaine sensibilité, mais il est vrai que les adultes surdoués notent très régulièrement, lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes, une sensibilité exacerbée. Ils réagissent très fortement, émotionnellement, à ce qui se passe, à ce qui est dit, à ce qui est perçu. Et parfois, je dirais, ils ont du mal à cacher leurs émotions. C'est-à-dire, quelqu'un peut vous dire, en réunion, tout d'un coup, j'ai pensé que j'allais me mettre à pleurer, un peu comme l'enfant qui, en classe, recevant une critique ou recevant une mauvaise note, tout d'un coup se met à pleurer devant ses camarades et le regrette après. La sensibilité, c'est avant tout, chez l'adulte surdoué, une sorte d'exacerbation du ressenti qui est lié à ses capacités de perception. Et il y a bien sûr un petit travail qui peut être fait et qui est fait dès l'enfance avec les enfants précoces, qui est d'apprendre à prendre un petit peu de recul par rapport à la réaction aux émotions. C'est-à-dire que ne pas être simplement dans émotion et j'agis tout de suite, mais en parlant au départ et en voyant comment on peut répondre de façon différente à cette situation, on permet à l'enfant de prendre un petit peu de distance. Et l'adulte peut apprendre, lui aussi, à mettre des distances avec ses émotions lorsqu'elles arrivent comme un raz-de-marée.
Finalement, ce qui est important à dire, c'est qu'être surdoué, ce n'est ni une maladie, ni un handicap.
Absolument pas. Et je regrette très souvent, et il est vrai que le thème de la souffrance est un thème très, j'allais dire, très vendeur. Et je ne l'entendais pas comme une critique. On souffre et cela vaut la peine d'en parler, cela vaut la peine de chercher des solutions. Mais il est important aussi de savoir qu'on peut sortir de cette souffrance et que d'avoir des dons, que d'avoir des capacités réelles, c'est un atout, c'est un bonheur. Et que là d'où on peut nous permettre justement de contribuer au quotidien, au monde qui nous entoure, parce que nous percevons des choses, nous avons le sentiment qu'il est possible d'améliorer ces choses. Cette exigence qu'a l'adulte surdoué, qu'a l'enfant surdoué, n'est pas un regard négatif sur le monde. Souvent on leur dit « Oh mais tu es critique, tu es tout le temps, tu vois tout en noir ». Non, le surdoué dit « Je ne vois pas en noir, je vois et j'aimerais trouver une solution pour que ça se passe mieux ». Donc le surdoué n'est pas nécessairement malheureux et en tous les cas, parce qu'il a des émotions intenses, il va aussi être intensément heureux si parfois il est intensément malheureux. Il vit les choses.
Alors il y a un petit mail de Marie-Claude, j'ai 53 ans, mariée et nous sommes parents de 3 grands-enfants et elle nous dit « Je préfère que l'on parle d'enfants et de personnes à fort potentiel plutôt que de personnes surdouées. L'attention et la bienveillance pour soi et pour l'autre. Ah oui, parlez-nous encore de l'intelligence émotionnelle. » Elle nous envoie un gros smiley, Marie-Claude, merci beaucoup.
Il faut en parler de l'intelligence émotionnelle, mais on peut en parler en détail.
Ça sera pour une prochaine fois. Peut-être des conseils à donner pour bien vivre.
Alors moi je dirais que je termine très souvent mes conférences par 3 questions, c'est-à-dire que lorsqu'on me dit mais qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir ma vie, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux, je dis posez-vous ces questions suivantes. D'abord, essayez de devenir conscient de vos forces. Quelles sont mes forces? Puis, qu'est-ce qui me procure du plaisir? Je crois qu'on ne peut pas vraiment devenir bon à quelque chose si on n'a pas de plaisir. Même si les autres nous reconnaissent génial dans une certaine pratique, ce qui importe, c'est que nous soyons une satisfaction profonde à l'exercice de cet art ou de cette technique. Enfin, je dis toujours, qu'est-ce qui a du sens pour moi? Parce que plus que tous, l'adulte surdoué a besoin de trouver du sens et de donner du sens à sa vie. Tout le monde a besoin de donner du sens, mais certainement l'exigence de l'adulte surdoué rend cette question très pressante et c'est une question à laquelle la réponse ne vient pas immédiatement et qui nécessite du temps et de l'une recherche.
Et puis un dernier conseil pour les proches de personnes surdouées?
Eh bien, je dirais beaucoup de tolérance, beaucoup d'affection, beaucoup de complicité. Car après tout, ils ont à apporter des choses.
L'humour, et c'est ça peut aider?
Ah, l'humour, bien sûr. Il ne faut pas que ce soit un humour trop caustique, autrement il blesse. Mais c'est un bonheur de partager son temps avec un enfant ou un adulte surdoué.
Eh bien voilà, ça sera sur ces notes positives que nous terminerons cette émission. Merci beaucoup, Monique de Kermadec. Votre livre, L'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué, c'est chez Albin Michel. Il y en avait eu un autre sur les petits-enfants, toujours chez Albin Michel. Et puis, je crois que vous en avez préparé d'autres. Voilà, merci à tous ceux qui ont rendu cette émission possible. Pierre-Henri, de l'autre côté de la glace. Et puis, l'équipe du Standard, qui a bien, bien travaillé ce matin, puisque vous étiez très nombreux, chers auditeurs, à rendre cette émission vivante. Soyez-en remerciés. Demain, on change de sujet. On parlera du cancer sous l'angle des proches. Les proches aussi, autres victimes du cancer. Une émission avec la Ligue contre le cancer. Et là aussi, nous attendons vos témoignages et vos réactions. Cette émission sur les adultes surdoués, vous pouvez la réécouter sur le site internet de RCF. Elle sera en ligne très rapidement.